Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette chapelle du monastère Sainte-Catherine, monastère de la communauté des Béatitudes à Blagnac, où nous allons vivre ensemble et en direct la messe du soir en mémoire de la scène du Seigneur en ce jeudi saint. Cette messe donc célèbre l'institution de l'Eucharistie que Jésus a opéré au cours du repas pascal qu'il partageait avec ses disciples. Et donc cette liturgie du repas pascal juif va en quelque sorte s'accomplir, se développer à travers la liturgie eucharistique. C'est au cours du repas de la Pâque, qu'on appelle le Seder, où l'on célèbre la libération des esclaves d'Égypte, la sortie d'Égypte. C'est au cours donc de ce repas pascal que Jésus va instituer la scène. C'est-à-dire, il ne va pas créer une nouvelle liturgie à partir de rien, il va comme habiter cette liturgie pascale juive et va l'accomplir, comme il le dit à travers d'autres paroles. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Et donc au cours de ce repas, il va prendre le pain. Le pain de la Pâque, c'est un pain sans levain, on appelle encore de pain azim. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, c'est que lorsque le peuple est sorti d'Égypte, tout cela s'est passé très vite, et ceux qui avaient préparé du pain, la pâte n'avait pas eu le temps de lever. Alors ils ont pris la pâte telle qu'elle était, et ne levant pas, cette pâte va donner un pain qui est le pain sans levain quasiment. Et la deuxième raison, c'est que ce pain rappelle la manne dont le peuple d'Israël s'est nourri dans le désert. Au cours de la célébration du repas pascal juif, il y a cette formule « Voici le pain de misère que nos pères ont mangé dans le désert ». Jésus va donc prendre ce pain de la Pâque, ce pain sans levain, et va prononcer cette parole en le distribuant aux disciples « Ceci est mon corps, livré pour vous ». Évidemment, il avait déjà annoncé dans la synagogue de Capharnaüm le fameux discours du pain de vie. Il avait dit aux Juifs « Vos pères ont mangé la manne dans le désert », vous voyez ce rapport à la manne, « mais ils sont morts, alors que moi je suis le pain de la vie, descendu du ciel, celui qui mangera ma chair ne mourra pas, vivra éternellement ». Alors cette parole avait beaucoup choqué. Comment peut-il donner sa chair à manger ? Évidemment, est-ce qu'on est en train de tomber dans de l'anthropophagie ? Mais on comprend ici maintenant, avec l'institution de la scène, qu'il va comme transfigurer ce pain de misère, cette manne, ce pain sans levain, eh bien, c'est son propre corps qu'il va donner pour la multitude. Et puis, à la fin du repas, l'évangile de Saint-Luc est très précis là-dessus. Il nous dit « À la fin du repas, Jésus prit la coupe ». Pour qu'on nous dise « la coupe », il faut que cette coupe soit une coupe particulière, sinon on nous aurait dit « il a pris une coupe ». Alors, dans le repas pascal juif, il faut savoir qu'il y a bénédiction de plusieurs coupes de vin. Quatre. Pourquoi quatre ? Parce que quatre verbes différents sont utilisés dans le récit de l'Exode pour décrire l'action libératrice de Dieu. Ces quatre coupes, au cours du repas, on les bénit, on rend grâce et on les boit. On les boit d'ailleurs d'une manière particulière, on les boit accoudés sur le coude gauche. Pourquoi accoudés ? Parce que ce sont les hommes libres qui boivent ainsi. Alors, c'est une coupe de délivrance, de libération. Et puis, il y a la cinquième coupe à laquelle on ne touche pas. Elle va rester là sur la table, on ne la boira pas. Et la tradition juive dit, c'est la coupe du Messie, ou encore la coupe d'Élie. Il y a souvent une collusion, on peut dire, entre Élie qui doit revenir et le Messie. C'est la coupe du Messie, ça veut dire que seul le Messie sera digne de prendre cette coupe, de la bénir et de la boire. On sent bien dans cela que ça veut dire que le repas pascal, certes, il est action de grâce pour la libération que Dieu a opérée en Égypte, mais il manque quelque chose. Il y a quelque chose qui n'est pas fini et qui ne sera pleinement accompli qu'avec la venue du Messie. Alors voyez ce sens très fort quand Jésus va prendre la coupe. D'ailleurs, saint Luc nous dit à la fin du repas, donc à la fin du repas pascal juif, il n'y a plus qu'une coupe, celle-ci. Toutes les autres ont été bénies et bues. Il prend donc cette coupe qui est la coupe d'Élie, la coupe du Messie, et il la partage entre tous en disant « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance ». Et l'Évangile nous dit « Et ils en burent tous ». Voilà comment, à travers ces deux gestes très forts, Jésus institue l'Eucharistie. C'est-à-dire, il transfigure finalement, il accomplit totalement ce qui était déjà là, présent dans cette célébration de la Pâque juive. Et tous les détails sont là, parce que le repas pascal juif s'achève par le chant d'un certain nombre de psaumes. Et si l'on fait attention dans l'Évangile, on nous dit « Et ayant chanté les psaumes, ils allèrent vers un jardin appelé Gethsémani ». Donc on retrace tout à fait cette liturgie de la Pâque juive. Alors ça c'est le premier point important dans cette célébration de ce soir. Et puis le deuxième point important, c'est le lavement des pieds. Pourquoi ? Eh bien parce que dans les quatre évangiles, les trois qu'on appelle synoptiques, parce qu'ils sont facilement mis en parallèle, à savoir Matthieu, Marc et Luc, les trois synoptiques racontent l'institution de l'Eucharistie, mais pas Jean. Jean ne parle pas d'Eucharistie dans son évangile, et il va remplacer, en fin de compte, dans son récit, l'institution de l'Eucharistie par le lavement des pieds. Et il est le seul à en parler. Alors pourquoi ? Bon, on pourrait s'interroger là-dessus. Peut-être que Jean a eu connaissance des autres écrits évangéliques, peut-être. Et peut-être a-t-il constaté que les trois récits dont il avait eu connaissance, eh bien, avaient zappé cet événement qui, à ses yeux, n'était pas anecdotique, donc le geste du lavement des pieds. Au cours donc de cette célébration que nous allons vivre, il y aura ce temps du lavement des pieds où on choisit parmi le peuple rassemblé 12 qui représentent finalement les 12 apôtres à qui on va laver les pieds. Ce matin, le père Benoît Joseph, nous parlant de ce geste, nous rappelait que c'est un geste d'esclave. C'est l'esclave qui lave les pieds aux invités, ça n'est pas le maître de la maison. Certes, c'est un geste d'esclave, mais je voudrais poursuivre un petit peu sur cette lancée, c'est un geste d'esclave libre. Parce que Jésus nous libère de tous nos poids, de tous nos fardeaux, de cette espèce de condamnation qui reposait sur nos épaules. Il nous en libère. Et donc c'est un esclave libre qui fait ce geste du lavement des pieds. Autrement dit, il ne fait pas ce geste parce qu'il est obligé de le faire. Ce que ferait un esclave, on ne lui demande pas son avis. Mais il le fait non plus par obligation, par devoir, mais il le fait par amour. Jésus prend la place de l'esclave par amour, et prenant la place de l'esclave, il nous libère de nos esclavages. Il y a cette notion très importante que l'on retrouve assez souvent, à savoir que nous avons été affranchis. Affranchir un esclave, c'est quoi ? C'est payer pour qu'il puisse retrouver sa liberté. Eh bien, c'est ce que Jésus fait, et le prix qu'il a payé, c'est le don de sa propre vie. Donc ce geste du lavement des pieds est très fort dans l'Église. Il n'est reproduit que au cours du Jeudi Saint, une fois par an. Ce n'est pas un geste qu'on va répéter X fois dans l'année liturgique. Et donc il prend toute sa valeur au cœur même de cette messe de l'institution eucharistique. Alors c'est aussi un geste qui est le symbole du diaconat. Pourquoi ? Parce que le diacre, c'est un peu Jésus serviteur en fait. C'est là-dessus surtout qu'on insiste. Ça ne veut pas dire que le prêtre n'est pas serviteur, que l'évêque n'est pas serviteur, ou que même le pape ne soit pas serviteur, puisque vous savez que la dénomination du pape, officiellement, c'est serviteur des serviteurs du Christ. Mais cette image est restée pour symboliser le diacre et le diaconat. L'Église, à travers ce ministère, va jouer le rôle du serviteur qui se donne, et qui se donne lui-même, bien sûr, pour que tous puissent participer à ce grand bonheur d'être sauvés par le Christ. Les frères et sœurs de la communauté des Béatitudes de Blagnac donc ont pris place dans la nef, dans les premiers rangs. Et puis, il y a beaucoup de monde qui a pris place ensuite dans cette nef, des amis, des personnes qui fréquentent habituellement la communauté, qui suivent les liturgies et qui ont eu à cœur de venir partager ce temps fort ce soir à Blagnac avec la communauté. Voilà, dernier préparatif, un certain nombre de personnes arrivent encore et prennent leur place. Voilà pourquoi sans doute le célébrant patiente quelques instants, et nous aussi par la même occasion. Voilà, le chant d'entrée commence. procession s'avance, partie du fond de l'église. Elle s'avance dans l'allée centrale. Alors bien sûr, comme toujours, en tête de la procession, nous trouvons la croix du Christ, car c'est le Christ qui marche devant nous. Et puis, cette croix, elle est accompagnée de cierges allumés. Puis suit l'Évangile et enfin les célébrants de cette célébration, les prêtres qui seront ce soir au nombre de 6. Ce sont tous des membres de la communauté des Béatitudes. Les prêtres ont vénéré l'autel et ils vont prendre leur place dans le chœur. Ce soir, c'est le Père Augustin qui préside cette Eucharistie. Il va maintenant encenser l'autel. L'Évangile a été posé debout, droit sur l'autel. Rappelons que l'encens est là pour symboliser notre prière qui monte vers le Seigneur, une prière d'action de grâce. Et c'est important que cette prière aussi dégage un parfum de bonne odeur. Le diacre maintenant va encenser les célébrants et puis chacun prend sa place dans le chœur.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
Amen.
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec
grand moment solennel pour tous les prêtres dans le monde entier en ce soir, où nous célébrons, nous faisons mémoire de la Sainte Cène du Seigneur. Quelque part, ce soir, nous nous rappelons, chaque prêtre se rappelle son ordination sacerdotale, se rappelle qu'il a décidé de donner sa vie pour les hommes, pour l'Église, comme le Christ l'a fait lui-même. C'est pourquoi, au début de cette messe, en rendant grâce au Seigneur de tout ce qu'il fait dans notre vie, pour vous aussi qui êtes là à travers votre sacerdoce baptismal, nous rendons grâce en ce soir pour tout ce qu'il accomplit dans nos vies. Nous pouvons devant lui humblement demander pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant,
je reconnais devant mon frère en pensée, en parole, par action et par omission, oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi au Seigneur notre Dieu.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Amen.
Christ.
Prions le Seigneur. Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer ce soir la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'Alliance éternelle. Fais que nous recevions de ce repas, qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
La première lecture est extraite du livre de l'Exode. Nous avons fait ce lien en introduction entre le repas pascal juif et l'institution de l'Eucharistie. Nous voilà replongés justement dans le contexte de cette sortie d'Égypte.
Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. » Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là, pour vous, sera un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur.
C'est une sœur consacrée de la communauté qui vient de faire cette première lecture du livre de l'Exode. Nous allons maintenant chanter le psaume. Et c'est un membre laïque de la communauté, Jean-Louis, qui est médecin, qui va psalmodier pour nous. La seconde lecture est extraite de la première épître aux Corinthiens. Elle est le témoignage fort de ce que vivait la communauté primitive par rapport à l'Eucharistie.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, chaque fois que vous en boirez. Faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur.
L'évangile va être proclamé par un diacre permanent, Jean-Claude, qui est également médecin. Vous l'avez peut-être entendu ce matin au cours de la table ronde, interviewé par Emmanuel à propos du mystère d'Israël. Il vient donc demander la bénédiction du prêtre pour proclamer la bonne nouvelle. Il vient maintenant rechercher l'évangile qui était posé sur l'autel, il le lève pour que tous puissent voir la parole de Dieu qui s'avance. Et il va regagner l'ambon d'où il va proclamer cet évangile.
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Lecture du Saint Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant, plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds, non jamais. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes pur, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous avez raison, car vraiment, je le suis. Si donc, le Seigneur, moi le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu.
C'est donc l'évangile de Jean qui est retenu pour cette célébration, l'évangile du lavement des pieds, et non pas l'évangile de l'institution de l'Eucharistie qu'on aurait pu prendre chez un des trois autres évangiles.
Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants, sur le linteau des maisons, où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là, avec des pains sans levain et des herbes amères. Quelle belle lecture du livre de l'Exode qui nous introduit dans ce mystère de l'Eucharistie, le pain sans levain, le pain pur, la chair pure du corps de Jésus mêlé à des herbes amères, qui sont à la fois cette souffrance du Christ, mais qui sont aussi, j'en suis persuadé, ces larmes amères de l'humanité qui pleure, comme Pierre a pleuré dans sa trahison, de l'humanité qui pleure sur son péché, herbes amères, qui se mêlent à cette chair pure de Dieu dans l'Eucharistie. Et ce n'est pas l'amertume du péché de l'humanité, les larmes de l'humanité qui souillent le corps, la chair, le pain de Dieu. Mais c'est le pain de Dieu qui purifie, cette amertume qui guérit, qui relève comme Jésus a relevé Pierre. C'est le pain de Dieu qui manifeste l'immense amour de Dieu pour l'humanité. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. C'est l'extrême amour de Jésus qui va purifier le cœur de l'homme perdu, de l'homme qui se fait du remords, qui ne cesse de se sentir coupable, qui se cache. Jésus vient au cœur de cette humanité blessée. Il vient par son corps de chair rétablir notre condition première d'Adam dans le paradis. Et c'est au cours de l'Eucharistie que Jésus commence de manifester ce geste. C'est mystérieux que l'Église nous propose un évangile dans lequel il n'est pas le récit de l'Eucharistie. Mais c'est peut-être pédagogique. Et saint Jean, en tout cas certainement, s'il parle peu de l'Eucharistie, en ce moment du jeudi saint, de la Sainte Cène, il ne parle que d'un repas. Saint Jean veut certainement faire surgir en nous le cœur de l'Eucharistie. Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, que c'est beau de voir que ce n'est pas le Père qui exige dans son courroux à son Fils de verser son sang, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, Jésus librement se lève de table, dépose son vêtement, prend un linge, et puis se met à laver les pieds des disciples. Jésus vient parce qu'il aime les siens qui sont dans le monde et qu'il les aime jusqu'au bout. Il se fait serviteur et, osons le dire, il se fait esclave. Esclave. Nous pouvons faire de lui ce que nous voulons. Nous avons droit de vie et de mort sur lui. Il se fait esclave pour nous sauver. Et il s'adresse particulièrement à saint Pierre, je dis bien saint. Il lui lave les pieds de manière personnelle, comme il vient auprès de chacun de nous qui sommes saints aussi, nous laver les pieds. Et nous, nous sommes un peu comme Pierre, je pense à nous aussi les prêtres plus particulièrement. Allons, allons Seigneur, tu ne vas pas me laver les pieds, tu es mon maître. Tu n'es que digne d'adoration. Et paradoxalement, Jésus répond, ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant, plus tard, tu comprendras. Que veut dire ce plus tard, tu comprendras? Pourquoi ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant? Sinon qu'en fait, ce lavement des pieds que je fais matériellement maintenant, en mettant un tablier d'esclave, en me mettant à genoux à tes pieds, Pierre, en prenant de l'eau, en la versant sur tes pieds, en les lavant, je signifie ainsi que je donne ma vie, que je verse mon sang. Ce lavement de pieds, c'est comme ton baptême, comme le peuple d'Israël à traverser la mer Rouge. Je commence par te laver les pieds physiquement. Et même si tu ne comprends pas maintenant, tu comprendras quand je serai sur la croix et que je te laverai dans ton âme, non pas seulement par l'eau, mais aussi par le sang qui jaillira de mon cœur. Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. Et frères et sœurs, nous mettons du temps à comprendre la valeur de ce sacrifice que fait Jésus en prenant notre condition humaine, en se faisant esclave. Nous résistons, non, tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. Mais Jésus reprend, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Est-ce une menace ? Non. C'est objectif. C'est une réalité. Si je ne te sauve pas sur la croix en versant l'eau et le sang de mon cœur, tu n'auras pas de part avec moi. Et certainement que Pierre, à ce moment-là, saisit qu'il y a un mystère dans ces paroles de Jésus qui le dépasse. Et c'est certainement l'Esprit Saint qui le pousse à dire « Alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête ». Cela veut dire que Pierre, peut-être dans un geste de foi, peut-être sans trop savoir ce qu'il dit, mais il verra plus tard, car lui aussi versera son sang. Mais Pierre, à ce moment-là, se met dans la position de tout disciple que nous sommes et qui veut être sauvé. Oui, Seigneur, je veux bien que tu me laves totalement. Je veux bien bénéficier totalement de l'eau et du sang qui jaillissent de ton cœur et me laisser laver. Je cède, je te laisse faire. Et Pierre comprend que Jésus, là, manifeste un geste d'amour qui veut aller jusqu'au bout et lui aussi veut bien aller jusqu'au bout en disant cela. Puis, Jésus, après leur avoir lavé les pieds, reprit son vêtement, nous dit l'Évangile, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ?» Certainement que Pierre a commencé de le comprendre parce que Jésus était tout particulièrement avec lui en ce moment. Et dans ce dialogue, Jésus a pu percer le cœur de Pierre. Et déjà commencé d'œuvrer en lui son œuvre de salut. Et Jésus s'adresse aux autres disciples en leur disant « Vous m'appelez maître et seigneur, vous avez raison. Oui, je suis votre maître, votre seigneur, vous êtes mes disciples, vous êtes à ma suite, vous marchez sur mes traces. Alors, si donc moi le seigneur et le maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. De par notre baptême, nous touchons tous à la grâce du sacerdoce et tous nous sommes appelés à nous laver les pieds les uns les autres. Mais ici, en ce soir solennel, Jésus s'adresse à ses disciples, à ces prêtres que nous sommes ici présents. Et il nous invite à nous laver les pieds les uns aux autres. Ce n'est pas seulement des mères Thérésa que nous sommes appelés à être, nous prêtres, c'est plus dans le sacerdoce. Certes, mère Thérésa a donné toute sa vie, mais pour le prêtre, un mystère le dépasse. Un mystère qui me fait peur, qui me donne la crainte, parce que Jésus me demande d'être comme lui. Et je vois ce paradoxe, combien je suis loin d'être comme lui. Alors, en ce soir, peut-être, chers frères et sœurs, puis-je, au nom de tous les prêtres, vous demander pardon de ne pas être à la hauteur de cette tâche que Jésus, au soir de ce jeudi saint me confie. Ce Jésus qui me demande que je fasse comme lui-même l'a fait. Et ma crainte, c'est de ne pouvoir pleinement l'accomplir. Certes, je compte sur la miséricorde du Seigneur et sur la vôtre aussi. Mais voilà la mission qui nous est confiée. Nous laver les pieds les uns les autres, qui va jusqu'à nous unir à ce sacrifice du Christ sur la croix, qui nous lave par son sang. Alors, frères et sœurs, en cette nuit très sainte où nous allons entrer petit à petit dans cette marche de Jésus vers la croix, tout à l'heure, nous honorons, nous adorons Jésus et nous nous unirons à ses souffrances, à Gethsémani, au Jardin des Oliviers, où déjà commence à se verser les larmes de son corps, lui, Jésus, pris par l'angoisse, les larmes de sang qui tombent à terre pour nous sauver, pour nous laver. Puissions-nous, en ce soir, nous unir à ce Jésus qui s'offre en sacrifice. Puissions-nous tous décider de nous laver les pieds les uns les autres, d'être les esclaves les uns des autres, pour pouvoir contribuer, chacun d'entre nous, à sauver les hommes. Amen.
Après cette homélie, c'est donc le geste du lavement des pieds qui va maintenant prendre place. L'homélie nous a rappelé la signification profonde de ce geste auquel nous sommes finalement tous appelés. Ce n'est pas un geste réservé en quelque sorte aux prêtres, voire aux diacres. Mais nous sommes tous appelés à entrer dans cet esprit de service, encore une fois d'esclavage, mais d'esclavage libre, par amour. Le père Augustin qui a prononcé l'homélie est donc prêtre, ici même à la communauté des Béatitudes de Blagnac. Il est en train de revêtir un drap blanc pour procéder au lavement des pieds. Un banc a été placé dans le cœur pour que ceux à qui il va laver les pieds puissent s'asseoir. Et voilà celles et ceux à qui il va laver les pieds s'avancent. Sont des personnes qui font partie de l'assemblée de ce soir. Des hommes, des femmes qui sont venus rejoindre cette célébration ce soir et qui vont d'une certaine manière nous représenter tous. Car bien sûr, il n'est pas possible dans une assemblée comme celle-ci de pouvoir laver les pieds de tous les participants. Et donc, ils sont là pour nous représenter. Nous allons recevoir ce geste au moment où, maintenant, il se fait. Et le père Augustin va passer de l'un à l'autre en lavant un pied de chacun, puis en l'essuyant avec ce tissu blanc qu'il a revêtu.
Et
le prêtre a remis sa chasuble après avoir donc fait ce geste du lavement des pieds.
Pour l'Église, pour chacun d'entre nous.
C'est le moment de la prière universelle avant d'entrer dans la liturgie eucharistique.
Ceci est mon corps qui est pour vous, pour l'Église, afin qu'elle demeure dans le monde, présence agissante des dieux. Seigneur, nous te prions. Alors, il se mit à laver le pied des disciples. Pour le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, afin qu'ils soient renouvelés dans la joie d'être des serviteurs à la suite du Christ. Seigneur, nous te prions. Jésus, ayant aimé les siens, les aima jusqu'au bout. Pour nos gouvernants, afin que leurs décisions et leurs actions servent à construire un monde de justice et de paix. Seigneur, nous te prions. J'invoquerai le nom du Seigneur. Pour les malades, tous ceux qui désespèrent de la vie, afin qu'ils trouvent en Jésus réconfort, force et espérance. Seigneur, nous te prions. Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Pour nous tous ici rassemblés, afin que notre participation à l'Eucharistie fasse de nous des ferments de vie pour nos sociétés. Seigneur, nous te prions.
Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église et dans ta bonté, daigne les exaucer par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Amen. Nous allons entrer maintenant dans la liturgie eucharistique. C'est le diacre Jean-Claude qui va procéder à la mise en place des offrandes sur l'autel. Pourquoi est-ce le diacre qui fait cela, même si un évêque était présent, même si le pape était présent, c'est un diacre qui ferait ce geste, cette préparation. Mais tout simplement parce que dans l'Église primitive, les fidèles apportaient des dons, des offrandes, du pain, du vin, autre chose aussi, pas forcément que de la nourriture, ils apportaient des dons qui étaient disposés sur une grande table à l'entrée de l'église. Et sur ces dons, le diacre allait prélever du pain et du vin qui qui allait servir dans la célébration eucharistique. Autrement dit, le diacre fait le lien entre le peuple et l'autel. Et puis, à la fin de l'Eucharistie, eh bien, le diacre allait partager tous les dons qui restaient entre les fidèles présents. Connaissant les besoins de chacun, il donnait à chacun de manière juste. On va présenter maintenant l'encens au prêtre qui va encenser les offrandes. Encore, geste de purification, geste aussi d'action de grâce, de notre prière qui monte vers Dieu. Après avoir encensé les offrandes, le prêtre encensera tout le tour de l'autel, puis ensuite le diacre prendra le relais pour encenser d'abord les différents prêtres qui participent à cette célébration. Et pour terminer, il encensera le peuple, l'assemblée fidèle qui est réunie ce soir. C'est le signe que la grâce qui vient de l'autel se répand sur tous, non seulement sur les célébrants, mais aussi sur tous ceux qui sont là présents.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Amen.
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur.
Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui, le prêtre éternel et véritable, qui apprit à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi en victime pour notre salut. Il nous a prescrit d'accomplir après lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
Santo.
Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Robert et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres.
Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent. Et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai.
Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge. Nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien, et tous les saints, accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection.
Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Le jour même où notre Seigneur Jésus-Christ a livré à ses disciples pour qu'ils les célèbrent les mystères de son corps et de son sang. Nous t'en prions, Seigneur, accepte cette offrande. Assure-toi même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille du jour où il devait souffrir pour notre salut et celui de tous les hommes, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue en la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchizedek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions.
Souviens-toi de tes serviteurs, en particulier d'Olivier, qui nous ont précédés marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière.
Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Cécile, Agnès, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur.
C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui.
Amen.
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit.
Amen.
Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Amen.
Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous pouvons dire avec confiance:
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais regarde plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne à ton Église toujours cette paix. Et conduis-la, conduis chacun de nous vers l'unité parfaite en toi qui règne pour les siècles des siècles.
Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Et avec votre esprit.
Frères et sœurs, dans la charité du Christ qui nous rassemble, échangez un signe de sa paix.
La paix se transmet depuis l'autel jusqu'au fin fond de l'Église, j'allais dire. Elle se transmet bien sûr à vous toutes et vous tous qui nous écoutez à ce moment-là. Vous recevez cette paix qui vient de l'Eucharistie. Nous nous donnons la paix les uns aux autres. Et je pense que ce geste est aussi lié à celui qui a été célébré tout à l'heure, l'invitation à nous laver les pieds les uns les autres. Eh bien, dans cet esprit de service les uns des autres, jaillit la paix entre nous. Personne n'essaye de prendre le dessus sur l'autre, personne ne cherche à entamer l'autre, à concurrencer l'autre, et du coup, la paix est là.
Je vous invite à vous unir de cœur avec cette prière que tout prêtre fait en ce moment sacré de l'Eucharistie, prière soi-disant secrète, mais à laquelle nous pouvons tous nous unir. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde, que ton corps et ton sang me délivre de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais, oh non, jamais, je ne sois séparé de toi.
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Qui nous écoutez actuellement, même si vous ne pouvez pas participer physiquement à la communion au corps et au sang du Christ qui va être maintenant distribué, vous pouvez vous unir à ce temps fort et on appelle ça communier par le désir, c'est-à-dire vraiment vous unir à ce qui est en train de se produire et recevoir la grâce de la présence de Jésus en vous. Les prêtres ont consacré ce soir des hosties qui sont en train d'être distribuées à la communion, mais également celles qui seront distribuées demain au cours de la célébration de la Passion. En effet, le Vendredi Saint est un jour qu'on appelle aliturgique, c'est-à-dire un jour où on ne célèbre pas l'Eucharistie. C'est le seul de l'année d'ailleurs. Et donc, cette Eucharistie de ce soir ne sera suivie d'une autre Eucharistie que samedi soir, lors de la Vigile Pascale. Et ce soir, à la fin de la messe, ces hosties consacrées qui seront distribuées demain partiront dans un lieu secret, car le tabernacle restera vide. C'est le signe que Jésus entre dans sa passion et l'adoration du Seigneur se fera dans une autre chapelle, une petite chapelle latérale. Tout au long de la nuit, les membres de la communauté et puis ceux qui participent, qui sont présents ce soir, vont se relayer toute la nuit pour passer au moins une heure avec Jésus, comme nous le rappelle l'évangile de Gethsémani. Vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi. Et donc, chacun prendra une heure au cours de la nuit pour veiller avec Jésus. Comme si nous étions avec Jésus au jardin de Gethsémani, à ce moment tellement terrible pour Jésus, où il va accepter la volonté du Père, malgré l'angoisse qu'il peut ressentir.
Prions encore le Seigneur. Nous avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant, en participant ce soir à la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être un jour rassasiés à la table de son royaume éternel, lui qui règne pour les siècles des siècles.
Amen.
un ciboire contenant des hosties consacrées a été déposé sur l'autel. C'est ce ciboire qui va être emmené en procession dans la chapelle Saint-Joseph, qui se trouve être juste à côté de l'église principale. Une chapelle qui était décorée comme un véritable jardin, avec beaucoup de plantes, beaucoup de fleurs, faisant penser au jardin de Gethsémani, mais aussi au jardin d'Éden, car par cette victoire que Jésus remporte, à commencer par Gethsémani, une victoire contre la tentation de refuser cette coupe qui s'approche, eh bien c'est le jardin d'Éden qui nous a à nouveau été ouvert. Le père Augustin a revêtu une chape blanche. Il se saisit maintenant du ciboire et la procession va partir vers la chapelle Saint-Joseph. Encore une fois, l'adoration va se perpétuer tout au long de la nuit, assurée par des frères et sœurs de la communauté, mais aussi par des membres de l'assemblée de ce soir, qui vont se relayer ainsi jusqu'à demain matin. La procession est donc partie vers la chapelle Saint-Joseph et peu à peu, tout le monde suit, y compris le petit cœur qui est en train de s'éloigner. Donc vous allez avoir un chant qui va petit à petit diminuer, car tous se rendent à la chapelle Saint-Joseph pour placer le Seigneur au cœur de ce jardin de Gethsémani. Rappelons qu'à ce jardin de Gethsémani, Jésus va connaître cette angoisse de la mort qui s'approche. Il demandera à ses disciples de veiller avec lui. C'est beau de penser que même Jésus a besoin d'être soutenu par notre présence et notre prière. Ainsi s'achève cette célébration de l'institution de la Seine. Nous étions en direct du monastère Sainte-Catherine de Blagnac et nous avons prié avec la communauté des Béatitudes. Je vous donne rendez-vous demain matin en ce qui concerne la suite des liturgies. Nous aurons l'office des ténèbres demain matin, vendredi, à partir de 8h. Mais vous pouvez être là dès 7h30, car nous aurons un petit plateau en direct également pour présenter les moments forts de cette journée du Vendredi Saint. Alors, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci de vous être unis à nous pour ce temps de prière. Et à demain, donc, à partir de 7h30, office des ténèbres, à partir de 8h. Bonne soirée à tous.